Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, écoute tous les soirs les artistes pendant une heure. Et ce soir, c'est Jane Birkin.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas te dire.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Quand je serai très vieille, 40 ans ou à peu près, avec des centaines d'enfants et tout, je serai peut-être un petit peu triste de lire quelqu'un d'aussi jeune. Quand je boiterai, je pleurerai peut-être un peu de toutes mes activités passées et sangloterai peut-être face à mes jeunes os et mes idéaux. Alors, dans la perspective de ces jours à venir, je vais dire quelque chose d'intérêt national. L'homme est allé dans l'espace, Gagarine, Shepard et tant d'autres. Marilyn Monroe est morte, 30 ans et quelques, pauvre et sublime créature, suicide il paraît. On a trouvé des bouteilles d'aspirine vides dans ses mains. L'amour ? Je ne sais pas. 1962, Jane Birkin, vous avez 16 ans. Vous écrivez à votre journal que l'amour, vous ne savez pas, mais vous aimez quand même bien Simon et vous seriez prête à épouser sur le champ Cliff Richard. Les astres, le ciel, l'humain, la mort, l'amour, tout est là, cousu de votre regard et de vos mots, dans ce premier tome de votre journal paru aux éditions Fayard. Bonsoir Jane Birkin.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci, merci.
Pour nos auditeurs, on va dire qu'on vient de composer un petit jardin japonais avec une feuille de papier et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rochers de gingembre confits au sucre.
Délicieux.
Hein ?
Voilà. Délicieux.
C'est le jardin entre nous.
Qu'est-ce qui vous a amené à écrire votre journal ?
Oh, je n'en sais rien du tout.
Ah ouais, vous avez tout de même obéi à un mobile au début en l'écrivant.
Mais non, j'avais ça dans le sang probablement. J'ai commencé mon journal en 1893. Voilà. J'ai été porté à ça. C'est une façon de revivre ce que j'avais vécu. C'est une façon de dédoublement. Chaque fois que je rentre dans un morceau à publier quelque part, je me dis journal littéraire. Les gens diront que c'est ça que je dis en littérature.
Oui,
j'ai écrit mon journal à partir de 11 ans, adressé à Monkey, mon confident. Ce singe en peluche habillé en jockey m'a été offert par mon oncle, gagné dans une tombola. Il a dormi à mes côtés, partageant la mélancolie de l'internat, les lits d'hôpitaux et ma vie avec John, Serge, Jacques. Il a été le témoin de toutes les joies et toutes les tristesses, doté d'un pouvoir magique. Il n'y avait aucun vol d'avion, aucune hospitalisation sans sa présence. Papa avait dit, peut-être qu'au paradis, c'est Monkey qui nous accueillera, bras ouverts. Kate, Charlotte et Lou avaient ses vêtements sacrés sans quoi les voyages étaient impensables. Serge a gardé ses jeans dans son attaché case jusqu'à sa mort. Et devant la dévastation de mes enfants, j'ai déposé Monkey à côté de Serge dans le cercueil où il reposait, tel un pharaon. Mon singe pour le protéger dans l'après-vie. En relisant mes journaux, il me semble flagrant qu'on ne change pas. Ce que je suis à 12 ans, je le suis encore aujourd'hui.
Eh mais t'enregistres là.
Jane Birkin, on a entendu une archive d'abord de Paul Léoto en 1950, interrogé sur son journal qu'il commença à la toute fin du 19e siècle, qu'il a écrit longtemps. On lui disait, mais quand même, vous aviez bien un mobile pour commencer d'écrire. Il dit, non, j'avais ça dans le sang. C'était quoi votre mobile à vous ?
Je crois que c'était mes parents qui m'ont encouragé d'écrire un journal, comme j'ai encouragé Kate et Charlotte et Lou, de même, parce que ça semblerait à eux, et je pense qu'ils avaient raison, que de toute façon, c'est rigolo de lire plus tard des choses qui vous semblaient tellement immenses et compliquées et désastreuses quand vous avez 12 ans. Et plus tard, rien que de le lire juste pour vous, c'est drôle. Mais surtout, quand on n'a personne à qui se confier parce qu'on se trouve à l'internat, comme c'était mon cas, ou parce que les gens ne vous écoutent pas, ou parce que vous ne voulez pas parler chez vous non plus, c'est un ami, un journal intime. Vous pouvez indulger même dans la mélancolie, dans les choses qui vous chagrinent. On n'a pas beaucoup de temps d'écrire quand on est heureux, donc c'est assez injuste. On a l'impression que quelqu'un était plus malheureux qu'ils ont été, en fait. Mais voilà, le journal intime, c'est fait partie de tous les Anglaises, je pense. Et les Anglais, sans doute, mais les filles surtout, je crois. Et c'est un bon truc. Je ne l'avais pas imaginé publier, pas contre.
Évidemment, c'est une question qui se pose ensuite, à savoir qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on a écrites comme ça pendant toute une vie. Et vous précisez, Jane Birkin, et ma vie a été longue, il faudra au moins 2 tomes. Mais moi, ce que je trouve assez fort dans ce premier passage, qui est en fait votre voix d'après, celle qui relie, c'est de dire, en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on ne change pas. Et en même temps, vous passez toutes les pages à dire que vous changez. Vous passez aussi beaucoup de pages à dire que vous faites des choix, que vous quittez des endroits, que vous quittez des êtres, qu'il y a beaucoup de choses qui changent en vous. Et pourtant, vous vous sentez à même d'écrire « Je suis toujours celle que j'étais à l'âge de 12 ans ».
C'est-à-dire les mêmes défauts, notamment, il me semble, les mêmes défauts, les mêmes paniques, les mêmes envies de plaire aux personnes que j'admirais, qui rendaient la vie une vraie torture, parce que à l'internat, je voulais tellement plaire à Jane Welpley, qui avait, je sais pas, peut-être 4 ans de plus que moi, elle était une senior à l'école, qui était sublime, qui avait une longue natte, et elle était le chef de mon école, et si j'étais en retard, et j'étais souvent en retard, parce que on dormait dans une maison qui n'était pas du tout dans l'école centrale. Donc, il fallait cavaler à travers un gravier et un petit ruisseau. Et si vous arrivez en retard pour n'importe quelle raison, vous avez une late mark. Et ben, j'avais des late marks et après 4 ou 5, ça devenait désobéissance, ce qui n'était pas vrai. Et ensuite, si vous en avez 4 ou 5 désobéissances, c'était une marque tellement grave que vous avez l'impression de couler Jane Welpley, la maison, l'île de Wight, Angleterre. Et puis vos parents vont lire que vous étiez désobéissante, que vous étiez en retard. Papa allait dire « Oh, you disappoint me so ». Et ça, le disappointment de papa, c'était juste inconcevable. Donc, j'ai mené une vie très ennuyeuse à l'internat, alors que mon frère était de tous les audaces, beaucoup plus brillant que moi et beaucoup plus... ils s'en foutaient complètement des règlements, parce qu'il ignorait qu'ils existaient. Ils n'étaient pas là pour lui. Il était battu toutes les semaines avec une canne par des garçons plus âgés que lui, comme ça se faisait dans les écoles anglaises très, très chic. Et il préférait d'être battu que de affronter mon père, lui aussi, premier jour de vacances, quand on avait le rapport de l'école. Mais lui, il est devenu premier assistant de Stanley Kubrick. Voilà, une personne qui découvre en chaque endroit où on est, il trouve le bunker de Hitler à Berlin. Il est déjà en train de fouiner dans une vieille maison. Il trouve tout le libre parole de Drummond et le cas de Dreyfus à bas les traîtres, à bas les juifs. Il était dans la maison abandonnée en 3 secondes et demie quand on tournait Je t'aime non plus. Donc c'est une vraie aventurier. Moi, j'étais une suivante. La fausse suivante.
Mais vous écrivez aussi, Jane Birkin, que vous étiez une jeune fille qui pensait. Peut-être que vous vous pensiez comme une jeune fille suivante, mais vous étiez une jeune fille qui pensait ce qu'elle vivait, qui réfléchissait ce qu'elle vivait, qui se posait des questions.
Moi, j'avais des idéaux à cause de mon père encore. Il s'occupait des personnes pour qu'ils n'aillent pas en prison. Donc, il nous emmenait avec lui. Et il embarquait ma sœur et moi à Battersea, en face de Chelsea, où c'était pas du tout le même genre de quartier. Et là vivait John Bell avec sa maman. Et Et la maman de John Bell est-il la personne qui vous rend jolie après votre mort? Un croque-mort, mais...
Une thanatopraticienne. Je crois que c'est ça.
C'est ça. Et elle arrivait avec une bourrette. C'est les gens qui arrivent avec des bourrettes, avec des morts dedans. Elle les mettait sur la table de la cuisine et elle faisait de son mieux pour les rendre très attractifs. Elle était si reconnaissante à mon père que son cher Tom n'allait pas en tôle, qu'elle disait « Oh, Mr. Birkin, le terrible jour quand le grand récolteur vous emmène, je ferai un formidable job de vous. » Elle était incroyable, Madame Bell. Et Tom, qui ne faisait que se toucher, et mon père a dit qu'à sa place, il ferait pareil, parce que la vie était si terne. Et Tom était un pyromane, donc dès que c'était marqué le propriété de Sa Majesté, hop, il sortait le briquet et il mettait flamme. Mais il n'était pas à mettre en prison, il était beaucoup trop innocent, beaucoup trop naïf. Papa savait que ça serait un grand erreur de le foutre en tôle. Donc, je trouvais que ce que mon père faisait était formidable, d'avoir des solutions pour que les gens ne paniquent pas, d'être l'épaule en fait. Et j'avais envie d'être comme lui.
Vous écrivez aussi à plusieurs reprises, Jane Birkin, qu'il y a quelque chose dans les mots qui vous attire, les mots des autres, et puis quelque chose qui vous grise dans vos propres mots à vous. Qu'est-ce que ça vous a fait de relire ces textes-là? Et comment est-ce que vous avez été invitée à écrire un autre texte en parallèle, puisqu'il y a vraiment deux textes en fait dans ce journal?
En fait, en relecture, je trouvais que j'étais tellement mélo comme enfant et qu'il y avait une sorte de satisfaction dans ça. En tout cas, il y a des pages où je pleure sur les pages et je laisse les gouttes de larmes bien couler dans l'encre. Donc il y a une sorte de complaisance. De la mélancolie que je reconnais et qui me fait rire maintenant. C'était difficile de relire sur ma fille Kate, sur sa naissance et de cette petite ligne qu'elle avait dans l'œil qui devrait lui porter chance. Donc maintenant qu'elle est morte, c'était vraiment difficile à traduire parce que j'avais écrit le tout en anglais, bien sûr. Donc il fallait le réécrire en français. Et je voulais que ça soit mon français à moi, pas trop parfait. Sinon, ça collait pas avec les morceaux qui étaient plus tard écrits en français. Et puis, les gens me reconnaisseraient pas. Et j'admire trop les paroles de Gainsbourg. Je pensais que c'était pas quand même possible des abréviations, d'écrire un peu comme dans un comic strip. Lui, il arrive de dire, comme une petite souris dans un coin d'alcôve, avec les petits virgules en l'air. Et je voulais que ça soit plus commun. Alors, aussi, je me suis rendu compte que dans tout ce que j'ai écrit, il n'y a jamais eu mention que j'ai fait un disque, ou un film, ou une pièce de théâtre, ou de chanter. Rien. Mais absolument rien. Il n'y a que la vie privée qui comptait, que les enfants qui comptaient, ou à John Barry, quand j'étais fou de lui et mariée à 17 ans. Et puis, évidemment, Serge Gainsbourg. Et puis, plus tard, Jacques. Et Kate et Charlotte et Lou. Et ce qui nous arrivait tous les jours, ou les bagarres, ou des retrouvailles. Il y avait une jolie chose. J'avais complètement oublié où Serge retournait à la petite ferme où il était pendant la guerre. Enfin, pendant la guerre, pardon. Où c'était un petit village où tout le monde l'avait oublié. Enfin, il me semblait que c'était peut-être dommage de faire marche arrière. En tout cas, il y avait des jolies choses dans le journal qui me tentaient de le montrer quand même. Mais je me suis dit que peut-être je pouvais faire un commentaire. J'aurais aimé faire un commentaire encore plus cruel en disant comment on peut être aussi aveugle de ne pas comprendre.
Ah bah oui, mais c'est trop facile là, d'arriver plus tard et d'être cruelle. Parce que sur le moment...
Oui, mais quand je m'étonne que Kate, dans les parcs, aux Tuileries, dit à toutes les petites filles de 6 ans, je m'appelle Kate Barry, Serge Gainsbourg n'est pas mon vrai père. Mon vrai père, c'est John Barry. Il vit à New York. Maman est juste avec Serge Gainsbourg. Ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Et filer l'adresse et tout ça... Comment ça se fait que je n'avais pas compris qu'elle avait besoin de qu'on parle de son père. Serge ne le permettait pas. Il n'y avait pas une photo de lui. Je crois même qu'il y avait une fille au père qui a dit à Kate que son père était mort, qu'on avait bien de la chance d'être avec M. Gainsbourg. Donc c'est vrai que à la relecture, bah ça, c'est, on se rend compte de ces bêtises. Il me semble peut-être même que peut-être que la génération de Lou et de Charlotte et de peut-être encore plus de vraiment des personnes de 30 ans qui sont habituées maintenant d'avoir des parents qui sont séparés ou et qu'ils ont avec la tête froide et très bien pensé aux enfants d'abord et puis être réglo. Moi, j'ai quitté John Barry dans une fureur qu'il était parti avec quelqu'un d'autre. J'ai jamais reçu un radis de cette millionnaire. Et j'aurais dû pour Kate, j'aurais dû lui dire, vous avez une fille, vous avez une responsabilité, mais il était en Amérique. Et puis, il était tellement connu, je ne savais pas comment commencer d'avoir un avocat ou de courir après lui pour quoi des sous. Ça me, je trouvais ça humiliant de faire ça et je pouvais faire sans. Mais en fait, j'aurais dû penser que si on est responsable, on demande des nouvelles, on demande ses droits aussi.
C'est pour ça que c'est étonnant, Jane Birkin, de vous entendre dire que vous avez quitté les hommes comme ça de manière inconséquente ou qu'aujourd'hui on pense plus aux enfants. Mais ce texte-là que j'ai lu, le premier tome de votre journal, il dit que vous n'avez cessé de penser à vos enfants. En tout cas, il n'est tissé que d'attention. D'attention à ses petites filles, d'attention à ce qu'elles font, d'attention à comment elles vont, de moments terribles si elles sont à l'hôpital ou si elles sont malades, ou de moments où elles vous retrouvent sur un tournage et vous avez hâte qu'elles arrivent. On peut difficilement dire que vous êtes une femme qui n'a pas pensé à ses enfants en lisant ce texte.
Ah oui, c'est pas tellement ça, c'est d'avoir été dépourvue de psychologie. Et puis d'avoir été si éblouie par Serge que... Il était ses sentiments et c'était un enfant par sentiment. Il était vexé si Kate parlait de John Barry. Il se jetait sur le piano en faisant dam 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 de fureur et de mélancolie et de pleurer. Donc c'est vrai que c'est une personne où je faisais terriblement gaffe qu'il soit pas blessé et je manquais de psychologie, je pense. De Pocket, mais que je pensais à eux et de leurs différents caractères, je pense que c'est assez bien noté leur caractère, de comment c'est perceptible, vraiment très très petite.
De leur jeu, de ce qu'elles disent.
La préciosité de Charlotte.
La manière dont elle dit « je suis Charlotte Gainsbourg » à 6 ans.
Oui.
Toutes ces petites apparaissent dans ce qu'elles sont et évidemment dans ce qu'on... n'a pu savoir d'elle après, mais toutes, je veux dire, Kate, Charlotte, bon, Lou n'est pas encore née dans ce tome-là, mais c'est précis la manière dont ces enfants existent dans ces pages.
Oui, je pense que c'est plutôt bien écrit, et puis comme je note ce qu'ils avaient dit, elles ont dit les choses extraordinaires. Enfin, ce qui me semblait tellement précis, Charlotte sur les éléments, l'air, la mer... Je sais pas, il y avait un trou et puis en fait c'était la terre, mais c'était une taupe qui venait de partir dans un trou. Je sais pas. Ils avaient des imageries tellement formidables que c'est ça mon journal. C'était les sentiments et de les voir progresser, de voir leur chagrin ou voilà. Ce n'était pas du tout mon métier. À croire peut-être que mon métier finalement n'était pas tellement important. Qu'il n'y avait absolument aucune... évidemment qu'il n'y avait aucun plan, ni aucune ambition, vraiment, parce que ça me semblait tellement extravagant que les gens me voulaient. Et je savais tellement bien qu'à cause de mon accent, à cause de comment j'étais, je ne pourrais pas aspirer d'avoir des rôles sérieux ou importants, même. J'avais fait des films de Zidi qui ont cartonné. Les gens me trouvaient drôle. Alors... C'était une vie si gaie que... Et quoi, qu'est-ce qu'on écrit ? Oh, aujourd'hui, on a enregistré, je sais pas, dit Douda, comme c'était, Serge était furieux, j'arrivais pas. Enfin, quel intérêt? Donc, ce nom d'intérêt pour moi, c'était le personnel.
Je me demande si la plupart des gens portent des jupes serrées et des bas, et de l'ombre à paupières et du rouge à lèvres. Toutes les grandes le font, et même si je pense que ce serait horrible de le faire, des fois je me demande si je n'ai pas tort, et si je ne suis pas juste trouillarde de pas essayer. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tout ce que je sais faire, c'est écrire et chanter. Ma mémoire ne peut rien retenir. Je voudrais tellement en être capable et un jour j'y arriverai. J'essaie de ne pas abandonner l'espoir que tout va s'arranger. Mais rien ne s'améliore, mon orthographe, les verbes, même la musique que j'aime par-dessus tout, je n'arrive pas du tout à apprendre la poésie. J'essaie, je commence, mais je finis en larmes. Je dois avoir un blocage dans le cerveau ou un truc comme ça. Je veux tellement me souvenir des belles choses de la vie. Le ciel au crépuscule, le soleil à l'aube. Je ravale mes larmes toutes les nuits. Je pleure pour père et pour le monde, et quand le soleil ne brillera plus pour moi, quand je serai partie, ma lumière évanouit.
Je suis totalement mélancolique, totalement, et en comprenant pas pourquoi. Et plus j'avance dans la vie, ou plus exactement dans l'âge, à défaut d'avancer dans la vie, plus je m'enfonce dans la mélancolie, c'est très clair. C'est curieux parce que dans mon cas, c'est lié à l'écriture, c'est lié à une tristesse. Au fond, c'est l'équivalent, c'est le mot pour dire une tristesse profonde, dont je ne sais pas si elle est la raison pour laquelle j'écris, mais dont je sais que le fait qu'écrire l'accroît. Écrire accroît cette tristesse. En même temps, écrire développe une exaltation qui n'efface pas la mélancolie. C'est comme si, à tout état, y compris de bonheur, c'est comme si tout était entaché de mélancolie. La volupté, la passion... toute vie affective, je parle toujours de moi, je parle pour moi, je veux dire, tout érotisme, toute jouissance artistique, tout dialogue avec un être humain, l'ombre de la mélancolie est dessus de façon croissante, toute vision de la nature, tout manque de la nature, aussi, car la nature manque énormément dans ma vie. Voilà, tout ça est coiffé par un vaste... Tout ça respire à travers le grand poumon de la mélancolie qui en même temps, ce n'est pas un état solide. C'est-à-dire, c'est un état liquide dont les taux de chimie n'arrêtent pas de varier, avec des transvasements d'un récipient dans un autre... des mélanges qui se modifient sans cesse, ces mélancolies, il y a plus ou moins de choses, de solitude ou de partage, mais c'est toujours la mélancolie.
Qui est cet homme? C'est un grand auteur, grand poète que j'aime tant, qui s'appelle Dominique Fourcade. C'est un archive de 1994 et il parle si bien de la mélancolie et de l'écriture, Jane Birkin. Et juste avant, je lisais un petit bout de votre journal. Vous vous demandez, est-ce que tout le monde met des bas? Et est-ce que tout le monde met du rouge? Et surtout, vous vous demandez, d'une manière aussi profonde que, comment on pourrait dire, juvénile, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et c'est une question qui revient presque pendant tout le journal. C'est-à-dire, à la fois, qu'est-ce que j'ai à voir avec la norme et qu'est-ce qui ne va pas chez moi?
Oui. Mais je pense que tous les enfants de... Je ne sais pas quel âge j'avais là.
Ah, vous n'êtes pas bien vieille.
14,
ouais,
un truc comme 14, ça.
14, 15 ans, ouais.
Je crois qu'ils se demandent tous qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Je pense que le désir du maquillage, de être un peu vulgaire, tu sais qu'il faut surtout pas, mais il y a une sorte d'auto-jugement de pas vouloir, mais en même temps terriblement vouloir. Ça n'a pas changé d'ailleurs, parce que l'hôtel de passe, les choses comme ça que j'ai pu faire avec Serge, qui était partant pour ce genre de rigolade, d'escapade, oui, absolument. Mais c'est une chose où tu sais que c'est pas qu'il faut pas, mais faut pas lire les livres érotiques et en même temps terriblement séduite pour les lire. Je crois que tous les ados sont comme ça. Alors vraiment, je pense que si ça peut réconforter les filles en lisant mon journal, de la maladie que je me suis fait de pas devenir une fille, les moqueries à l'internat, que j'étais moitié garçon, moitié fille, parce que les seins ne poussaient pas, que un sein commençait de pousser et pas le deuxième, que le panique totale de penser que je pourrais jamais avoir d'enfant, qu'il y avait un truc vraiment, même ma mère m'avait emmenée au docteur de famille, enfin, c'était le total cauchemar. Et plus tard, il faut pas se demander pourquoi j'ai fait tellement de photos à poil avec un tel gay abandon. Ben oui, j'étais tellement ravie que quelqu'un me trouvait jolie, que sais-je, trouvais même que j'étais le dessin qu'il faisait aux Beaux-Arts d'une fille qui ressemblait à un garçon, sur quoi il a écrit le film Je t'aime non plus, bien sûr. Mais quelle chance! C'était, tout va bien après. Si on est aimé, tout va bien. Et les filles, en lisant ça, je pense qu'il y aurait une identification, parce que malgré tout, c'est une suspense assez incroyable de pas savoir comment on va développer. De la même manière, je peux dire que quand tout s'arrête, c'est une panique aussi. Je l'avais mis dans mon film Boxes, mais ça s'arrête comment? Il y a des dames qui disent que tout d'un coup, ils sont inondés d'une sorte de... qui sont toutes mouillées, leurs chemises cravates, comme s'il y avait une fuite au plafond. Bah, ça va arriver quoi pendant le dîner? Pendant que... ça s'arrête comment? Et votre propre maman dit « Oh, mais je m'en souviens pas très bien. Oh, pof, je me suis dit, oh bon, c'est fini. » Et pour moi, c'était la panique. Je suis allée voir mon cher gynécologue en disant fais-moi juste que ça continue, même faussement, je m'en fous, je veux acheter des OB jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas possible de devenir quoi, neutre comme le chat? Et tous ces trucs là les gens en parlent pas. Et
ça me fait penser à un passage, je crois que c'est Kate à 12 ans qui dit je veux pas être une petite fille de 13 ans. C'est ça, non?
Elle pensait, et c'était parce qu'il y avait des interdictions en moins de 13 ans, donc elle imaginait
qu'il y avait un vrai gap.
Un vrai gap. Mais c'était quelqu'un aussi, Kate, qui a gardé un tel part enfant en elle, il y avait une telle proximité avec elle d'enfance, vraiment, que je pense qu'il y avait une partie d'elle qui ne voulait pas grandir et qui ne voulait pas des responsabilités et qui était d'une manière divine irresponsable et terriblement responsable des autres à la fois, parce qu'elle a créé son centre à Bussy pour les alcooliques et les narcotiques. Elle a sauvé plus de vies que moi j'aurais pu faire si je vivais jusqu'à 100 ans. Donc elle était terriblement responsable et en même temps un enfant, un vrai enfant. Donc oui, c'est vrai, j'aimais beaucoup ce passage. J'étais contente qu'elle soit à ce point présente aussi, même si c'était triste maintenant. Mais je l'ai retrouvée complètement. Et dans son courage aussi. Parce que, bondissant sur la page de Cabourg pour courir après mon panier avec des mauvais garçons qui se sont tirés avec, enfin, elle était de tous les courages, Kate. Donc c'est... voilà, c'est... je ne sais pas pourquoi on parlait de ça.
On parlait de ça parce qu'on parlait de plein de choses. On a été comme des petits cailloux comme ça, rebondissants. On a parlé de l'enfance et aussi de la mélancolie.
Mais je pense qu'il n'y a rien de plus beau que l'enfance.
Ça transparaît de ces pages, Jane Birkin.
J'avais un tel... quand je suis avec mon frère ou ma sœur... mais mon frère est pareil, il est malade de la même manière. Il a quand même passé sa vie à écrire sous J.M. Barrie, qui a écrit Peter Pan, le garçon qui ne vieillirait jamais. Son premier film, Burning Secret, c'était de Stephen Zweig sur un enfant et sa mère. Il a fait Le Jardin de Simon avec Charlotte à propos des adolescents et des enfants qui essayent de vivre ensemble et de pas être mis à les, enfin, les parents sont morts et ils vivent dans une maison abandonnée. Il est quelqu'un qui est tellement attaché lui aussi, et ma petite sœur aussi. Mais si j'ai écrit une chanson qui était Les Enfants d'hiver sur un album qui n'a pas vendu du tout, mais qui s'appelait, je pense, Enfants d'hiver, eh bien, c'était ça, c'était Andrew et Linda et moi courant sur la plage, les lèvres mauves des plages de, comme en Bretagne, quoi, aussi sauvage et aussi congelé et aussi, c'est aussi brillant. Il me semblait que le soleil, le tout, était teinté d'une autre couleur. Il y avait un autre parfum dans l'air, qu'il y avait une sécurité. Ça, on a une chance folle. Quand je vois des autres enfants qui n'ont pas cette sécurité-là, de le confort de savoir que tout est sauf. Ça y est, si vous rentrez à la maison, vous êtes sauf. C'est cette sécurité-là est quelque chose que tous les enfants du monde n'ont pas. Et je pense que ça vous lance dans le monde d'une manière magnifique, tout comme je pense que mon père m'a lancé dans le monde en disant que... c'est à double tranchant, parce qu'il trouvait que j'étais tellement jolie et bon que j'avais la trouille qu'en fait il découvre que je n'étais pas bon, que j'avais un mauvais fond, que tout se basait sur une chose qui n'était pas vraiment vraie. Et c'est cette mini-torture-là, parce que la beauté aussi, oui, en effet, j'étais mignonne, mais c'est tout ce que j'avais. Donc l'idée de vieillir, ça veut dire que ça part et t'as rien. T'es pas intelligent, t'es pas brillant comme Charlotte dans les films où c'est les caractères malicieuses, drôles, cruels, les caractères que tu joues. Tu es une vraie actrice ou Lou qui écrit ses textes. C'est une vraie personne qui écrit, qui a quelque chose à dire d'elle-même. C'est pas juste d'être mignonne. Ça, c'est...
Vous voulez que je vous lise un poème que vous avez écrit à la mort du père de Serge ?
Oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Bon.
C'est pas comme si vous n'aviez jamais écrit Jane Birkin. C'est pas comme si vous n'aviez rien à dire.
Ah oui, mais c'était secret. C'était secret, les gens ne savaient pas.
Ah oui, c'est vrai.
La grande gratification pour moi était « Oh pardon, tu dormais ?» et « Boxes ?» et même le petit disque, même si ça n'a pas vendu.
J'arrive pas à le
trouver. Ça, c'est le pied de pouvoir écrire.
Oui, c'est le pied. D'ailleurs, ça sent, je sais pas, ça sent que c'est le pied de pouvoir écrire quand on vous lit. C'est le père de Serge, 1971. Je vous aimais, petit homme. Je n'ai jamais eu le temps de vous le montrer. Jamais eu le temps de vous dire que je vous aimais, petit homme. Allongé dans une boîte si tranquille, je n'ai jamais eu le temps de promettre des choses. Est-ce que vous m'entendez ? Mon bébé bouge en moi contre votre visage. Quel calme après la panique, une paix terrible et solitaire. Que faites-vous dans l'éther ?
Je l'aimais beaucoup, le père de Serge. Beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que on ne fait jamais assez quand les gens sont vivants. C'est idiot de dire ça, mais c'est vrai. J'avais voulu l'emmener, lui et la maman de Serge, en Yougoslavie, quand on tournait le film en Yougoslavie. Je voulais les embarquer avec moi. Je les aimais. Ils faisaient partie de moi, son père, sa mère, sa sœur Jacqueline, Liliane. Cette famille m'était tellement chère. Et quand j'ai quitté Serge, j'étais tellement reconnaissante qu'il voulait bien encore me voir. Et que la maman de Serge disait « schmock » à propos de Serge. Et même quand je grossissais de jour en jour parce que j'allais avoir un loup, je pensais que peut-être, voilà, que ça serait un blâme. Je ne pouvais pas imaginer qu'il m'aimait pour moi. Et en fait, oui, Donc cette chaleur d'avoir une famille aussi réelle que la mienne en France, à Paris, tout comme le mien si cher à Londres, ça fait partie de ma vie maintenant aussi. Maintenant aussi, mes dimanches sont de cavaler pour voir Jacqueline. Et c'est une grande chance, hein, je trouve.
Et combien même tu m'aimerais encore, je me passerai aussi bien de ton désaccord. C'est le même dilemme entre l'âme et le corps, comme un arrière-coup de nevermore. L'autre y est mon, les chants de mal dormant. Tu n'aimes pas, moi j'adore. Et combien même tu me passerais sur le corps, je ne me sens plus de faire aucun effort. C'est le théorème de tous les anticorps, un problème de rejet ou d'accord. L'autre y est mon, les chants de mal dorant. Tu n'aimes pas, moi j'adore.
France Culture. Par les temps qui courent, Marie Richeux et Jane Birkin.
Je n'ai toujours pas grandi. Ça doit être quelque chose de rare d'être avec un homme comme Serge qui vous laisse grandir, sans beaucoup d'intérêt mais sans jamais vous écraser non plus. Et je pense qu'il m'aime, et je l'aime. Je ne peux rien faire sans son regard, pour ou contre. J'ai besoin de son regard. J'ai besoin de sa force. Même si ça m'inspire d'aller contre sa volonté. Il doit être là, toujours là. Il garde mes grands pieds sur terre. Et parfois, il m'aide à m'envoler.
Ah, c'était Jamel Benyales. Vraiment, ça, c'était un coup où je suis fière hein, d'avoir eu l'idée d'Arabesque.
Et... C'est le titre de ce disque.
Oh oui, c'était Jam and Fam. C'est Jamel Benyales et son groupe. Et on a fait pratiquement 20 ans grâce à Olivier Glusman et Visiteurs du Soir. J'ai jamais fait ça avant d'avoir une tourneur. C'est génial d'aller dans tous les pays du monde avec Arabesque. Et c'était très inspirant sur la musique arabe. Ça allait tout à fait. Et on comprend tous les mots de Serge, mais c'est un poignant, les mots de l'autre Raymond de Chandemal. Il m'a donné toutes ses blessures à chanter, finalement, dans les dernières trois long playing qu'il m'a fait. À partir de Baby Alone in Babylon, je suis devenue lui, son côté féminin. Lui, il devenait Gainsbourg et avait besoin de tout cette choquerie, de tout cette ce personnage qu'il était sans doute dedans, mais il n'a jamais cessé non plus d'être Ginsburg et Gainsbourg. Ma chance à moi, c'est qu'il m'a donné à moi d'interpréter cette côté féminin qui n'était pas moi, c'était lui.
Et ce disque-là, et en effet, et cette chanson-là, et quand bien même, qui est une chanson très, très tardive en fait, hein, très peu de temps avant qu'il meure, on l'entend si littéraire, et puis on l'entend dans votre voix, interprétée bien des années plus tard en hommage, vraiment comme un poème. Et juste avant, je lisais un petit extrait de votre journal, Jane Birkin, 1978, donc on est bien des années en arrière. Et vous vous dites, ça doit être une chance de vivre avec un homme comme ça, qui me laisse grandir sans m'écraser. Alors, ça ne vous empêche pas d'écrire plus tard des pages qui sont très dures sur Serge Gainsbourg, extrêmement dures. Mais ça ne vous empêche pas non plus d'écrire plus tard, des pages extrêmement belles. C'est-à-dire que ce que dit aussi ce journal, c'est que dans la vie, voilà, les choses bougent, elles changent et nous sommes peut-être les mêmes, comme vous l'écrivez au début, mais nous sommes aussi très différents en fonction des moments de notre vie.
Oui, et puis Jacques Doyon me disait toujours que j'étais très injuste parce que les gens étaient soit les saintes ou les salauds. Et je les monte haut, et c'était des demi-dieux. Et puis après, ah, quel salopard, il chute. Donc et il a dit, les gens sont quelque part au milieu, ni mauvais, ni bon. Et moi, j'avais jamais pu juger ou vivre comme ça, où ça aurait été sans doute plus juste. Mais je suis tellement en admiration, tellement excitée de faire certaines choses. Je suis si enthousiaste que j'ai carrément pas vu ni le danger, ni le... Je ne sais pas, je pense toujours que ça va aller en plus. Je suis horriblement optimiste, donc j'ai vécu ma vie comme ça, et puis avec des chutes vertigineuses qui étaient sans doute tout le temps là, en jugeant les gens effrayants tout d'un coup, alors que deux pages avant, tu les avais... Je ne sais pas, c'est de matin au soir, de toute façon, on n'est pas la même personne. Ça dépend ce qui arrive dans la journée. J'ai toujours pensé que même les États, même la France, ça dépend qui a envahi, à quel moment, réceptive à quoi, pourquoi Angleterre est différente. C'est tellement plus facile d'être une île. C'est tellement plus... Le mot est très galvaudé maintenant de dire, mais c'est... Voilà, on peut être... On peut être arrogant alors, parce qu'on est une île. Quand on est envahi, on a un différent tempérament. Et puis on a un différent tempérament le matin, si quelqu'un t'a souri ou si vous avez trébuché. Si finalement, de sourire, c'est tellement facile. Et vraiment, ça égaye une journée. Quand vous voyez les gens qui vous sourient ou qui promènent leur chien le soir, il y a juste... ça change le couleur de la journée ou
sourit,
de la nuit.
Et le monde sourit avec toi, pleure et tu pleures toute seule.
Maman. Elle avait absolument raison. Et quand les gens disent, mais je comprends pas, je l'ai vue à 2h30, elle était absolument ravie. Et 2 heures plus tard, elle a sauté de le pont sur le bord de la Seine. Et oui, on change de minute en minute. Tout le monde. Je trouve le plus grand compliment que j'ai eu avec une fille qui est arrivée, elle disait, vous êtes moi. Alors, j'étais ravie que je peux correspondre à une autre fille. Ou une autre femme.
Pourquoi ?
Parce qu'on se sent moins seul. Toutes les choses, les défauts du corps, les horreurs qu'on pensait juste personnelles, d'avoir cette camaraderie-là, je trouve ça... Ah, c'est un réconfort, c'est génial.
Mais c'est une camaraderie qui vous a manqué dans la vie réelle, Jane Birkin ?
Mais non. Non, mais des doutes sur soi. Quand on me lit et quelqu'un me dit « j'ai senti la même chose », alors on se sent un peu moins inutile aussi. Et puis, je m'en souviens une fois, il y avait un garçon de café qui m'a chuchoté j'ai vu une chose de vous qui était la meilleure chose que vous avez fait. J'imaginais qu'il allait dire qu'il était venu voir la fausse suivante de Chéreau. Non, c'était pas ça. Il avait vu « Oh pardon, tu dormais », une pièce que j'avais écrite et que j'ai filmé aussi avec Perrin et Christine Boisson. Et il a dit, je me sentais comme vous. C'est-à-dire qu'il sentait comme la fille, qui était pourtant chiante, qui ne laisse pas dormir les garçons, parce qu'elle veut être rassurée toute la nuit, qu'elle est jolie, que ça va. Il aurait mis sa main au tout début, il n'aurait pas de pièce tellement... Voilà, ça aurait été arrêté là, c'est tout ce qu'elle voulait. Et cet homme m'a dit... que j'étais comme lui. Oh, qu'est-ce que ça m'a plu.
À la fin de ce tome-là, de votre journal, Jane Birkin, vous écrivez que si ça avait été possible, vous auriez fait vivre Jacques Doyon et Serge Gainsbourg ensemble.
Mais c'est-à-dire que j'ai vu trop de films. Donc j'ai César et Rosélie, Jules et Jim, je ne sais pas. C'est une situation où c'était un peu facile pour moi de voir les deux. Mais en même temps, je trouvais ça si beau quand je les voyais rire que de s'éclipser, de savoir qu'eux, ils continuent dans cette amitié masculine, ça m'a bien plu aussi. J'étais folle parce qu'évidemment, ce n'était pas du tout les choses qui pourraient se passer. C'était aussi que je ne voulais pas ni perdre l'un ni perdre l'autre. Et ma chance était très curieuse tout de même. Je pense que je ne sais même pas si ça existait de... pour un interprète et une personne qui a vécu avec le compositeur, ça c'est très banal. Mais que cette même compositeur, après que la personne en question est partie, décide d'écrire jusqu'à la fin de sa vie, parce que Amour des feintes, c'était la dernière chose qu'il a écrite. Pas tout à fait, parce qu'il a écrit une dernière chanson pour Philippe de Richem qui s'appelle L'homme dans l'ombre, notre directeur artistique. Et pour moi, la raison que je chante encore, c'est Philippe. Mais sinon, quelle chance ça a été qu'il n'a pas voulu rompre ça. Et quelle extravagance de bambou de le permettre aussi. Et c'était de ça que j'avais peur. Que je perdrais Serge, qui aurait été aussi grave que de perdre mon père.
D'ailleurs, vous l'écrivez quasiment en noir sur blanc, hein, dans ce journal-là, au présent, pendant que vous êtes en train de le vivre, vous écrivez très bien, quand Serge Gainsbourg est malheureux et qu'il vous dit qu'il est malheureux, que vous l'aimez comme votre père et que de le perdre, ce serait perdre encore une fois votre père, Jane Birkin. Mais je me dis, publier ce journal en vous écoutant et en vous regardant, c'est quand même faire un acte de transmission. Il y a quand même quelque chose que vous dites à des gens après vous. Et c'est pas anodin que votre petit-fils soit cité dans la toute première page, je crois, ou les quelques premières pages, vous rapportez un mot qu'il dit de vous. Comme si quand même publier ce livre, c'était dire quelque chose à ceux qui viennent et celles qui viennent après.
Oh, je crois pas. J'étais en train de virer des livres de mon bibliothèque l'autre jour, en jetant avec gai abandon les livres que j'avais pas lus ou les choses que ne me semblaient pas très intéressantes. Je me suis dit, oh là là, donc dans 2-3 ans, moi je vais me trouver dans le même pile où on se demande qui veut les livres encore. Je vais cavaler un abrebus, je vais les laisser dedans ou je vais me trouver là-dedans. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça serait des livres à postérité. Ça faisait très peur de le publier, à dire vrai.
C'est parce... pas parce qu'on ne croit pas que ça va faire postérité qu'il n'y a pas un geste de transmission dedans.
Mais peut-être c'est malgré soi, d'une certaine manière. Ça faisait peur de le publier parce que c'était vraiment... Pendant un an, je me suis rétractée. Parce que je me suis dit, oh non, les gens vont voir clair en moi. Ils vont voir que je ne suis pas du tout la personne qu'ils avaient espérée. Je vais décevoir. Et cette idée-là, cette crainte, après d'avoir été tant aimée en France, ça m'a absolument pétrifiée. C'est comme les gens disent toujours, détenu, oui, mais c'est exactement ça, parce que c'est quand, le moment que vous l'avez écrit, vous n'avez pas du tout imaginé que tout le monde lirait ça. C'est le propre du journal intime, c'est de le garder intimement pour soi. Donc pourquoi tout d'un coup, j'avais l'impression que j'avais plus rien à donner aussi. Après le mort de Kate, j'avais cette impression aussi. Et que j'avais donné mes films en Super 8 de Serge, que j'avais donné les choses d'un intérêt, il me semblait, aux Français. J'avais donné des interviews, j'avais donné des anecdotes. Parfois, on a écrit des livres sur moi et j'ai même pas lu parce que c'était pas la peine. Ils m'ont pas demandé en avance et puis c'était souvent pas vrai. On a fait un film sur Serge que j'ai pas voulu voir parce que c'était pas comme ça. Alors c'est vrai que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, mon frère m'a poussé beaucoup en disant, mais c'est tellement comme toi. J'ai dit, mais justement... C'est ça, le hic. C'est quand vous écrivez pour écrire comme pour Pardon, tu dormais ou Boxes ou L'enfant d'hiver, vous contrôlez ce que vous écrivez. Là, quand même, ça m'échappe de comment j'étais. Et c'est une autre personne. Et il a dit, mais non, mais c'est justement ça qui est bien. Et Gabrielle, ma copine, me disait pareil. Donc j'étais poussée par eux qui m'aiment beaucoup. Et puis mon petit-fils allait mieux. Et je me suis dit, allez hop, c'est peut-être rigolo, même pour Roman.
On connaît tous cette étrange manie qu'on a les uns ou les autres, par exemple quand on est au téléphone, de prendre un bout de papier, de gribouiller des choses en parlant. Et bien souvent, après, on regarde ce qu'on a fait et il y a une sorte de geste compulsif derrière... la trace qu'on laisse. Et ça m'intéresse au niveau du dessin. Les manières de faire pour s'empêcher de préméditer son coup. J'aime bien ça. Je pense vraiment que le dessin, c'est un langage complet, enfin, qui se suffit à lui-même. Le dessin, c'est... Ça a été dit, hein, c'est l'écriture avant la lettre, c'est une façon très directe, très sophistiquée quand même, de s'exprimer, c'est un langage complet. Je laisse un blanc. C'est un blanc aussi avec ma plume. C'est vraiment pas facile, finalement, d'être tout à fait qui on doit être. Ça demande quand même beaucoup, beaucoup de... à la fois de concentration, mais à la fois de ce fameux lâcher-prise, non ? Le dessin, c'est vraiment aussi un outil de travail. C'est une manière d'avancer avec soi-même.
On va terminer avec cette voix, Jane Birkin. C'est celle de Benoît Jacques, qui parle du dessin en 2009, dans l'émission Surpris par la nuit, mais qui dit aussi deux autres très belles choses, que c'est pas facile d'être qui on doit être.
Oui. Bah, on tombe court de ce qu'on voudrait être. Ça, c'est vrai. On est le premier déçu. Mais en même temps, je suis toujours très étonnée comme les gens sont sages. Mais moi aussi, hein, dans ma voiture. Enfin, je conduis très très mal. Mais je me dis, mais pourquoi les gens se gardent en ligne comme ça sur les autoroutes, ça? J'ai un deuxième moi qui traverse de l'autre côté et qui pam, 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 pam. Donc, il y a cette violence qu'on contient tout le temps d'être complètement déchaîné. Alors, on a la chance d'être actrice parce que souvent, on nous demande de se déchaîner et tout le monde trouve qu'on a fait une performance extraordinaire. Ben non, je trouve qu'on a une chance d'être un artiste, ça c'est sûr, d'être une actrice, n'importe qui peut s'exprimer. Quelle chance, parce que sinon d'avoir ce dédoublement dans la tête, je pense qu'on serait rendu fou.
Un grand merci, on a évidemment passé cette archive sur le dessin parce qu'il y en a quelques-uns de vous, Jane Birkin. Dans ce livre-là, c'est le premier tome. Quand est-ce que paraîtra le prochain?
Il faut que je fasse des commentaires.
Ah.
Il faut aussi que je le sorte en anglais parce que des pays anglophones le veulent. Donc il faut que je retravaille des commentaires. Le journal existe parce que c'était en anglais. Mais voilà, c'est du boulot à partir de janvier, je ne sais pas, avril, mais je ne sais pas.
Merci beaucoup Jane Birkin. Monkey Diaries, c'est publié aux éditions Fayard.
Il s'appelait Monkey. Et on avait tous l'obligation, quand on voyageait, de prendre un morceau de Monkey. Donc il fallait qu'on scotche dans notre passeport un morceau de son jean. Et mon père pareil, mes sœurs pareil. Voilà. Mais ce singe est avec mon père maintenant.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parlais d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort.
Au son ce soir, c'était Amine El-Mansari à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et quand vous voulez, en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci aux collégiens Lucie Aubrac à Tourcoing, à la classe média. Ils ont été spécialement sages et attentifs en cabine. Un grand merci aussi à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Lou Quevauvillier et Marianne Chassor. Très belle soirée sur France Culture et leurs professeurs, évidemment, les collégiens ne viennent jamais seuls. À demain.
Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me dis tout.